Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce numéro de Vivante Église pour une émission que nous allons dédier aujourd'hui au 7e art et à deux films, Juliette au printemps, réalisé par Blandine Lenoir, un film qui vient tout juste de sortir sur les écrans et qui est à l'affiche de l'ABC à Toulouse, et La vraie famille, un film de Fabien Gorgeard sorti en 2021. Deux invités pour évoquer ces films, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les deux, merci d'être au rendez-vous de Vivante Église. Nous allons donc évoquer d'abord Juliette au printemps, et je précise que ce film fait l'objet de la séance du Ciné-Parole que vous animez ensemble à l'ABC mardi prochain, le 18 juin à 14h30. Je voudrais qu'on présente d'abord Blandine Lenoir, dont ce n'est pas la première réalisation, puisque Juliette au printemps est son quatrième long métrage. Est-ce que ces films précédents avaient retenu votre attention jusqu'alors? Et je m'adresse à Louis-Marie Solaire pour commencer.
Oui, ils avaient retenu l'attention. Zouzou, son premier film, était passé un petit peu inaperçu. C'était un galop d'essai. Elle avait fait, quand je dis galop d'essai, un galop d'essai pour les longs métrages, parce qu'elle avait déjà à son actif une bonne demi-douzaine de courts métrages. Mais après, elle avait réalisé Aurore avec Agnès Jaoui, où elle mettait en scène une femme qui vivait la ménopause avec la difficulté que ça représente pour elle, sa vie amoureuse et puis aussi sa vie de mère de famille qui élève seule ses filles et l'une d'entre elles qui s'en va d'ailleurs et qui va avoir un enfant. Après, il y avait eu Annie Colère où elle mettait en scène là une femme et les problèmes liés à l'avortement. Et cette fois-ci, Juliette au printemps, encore un sujet féministe, et là son personnage souffrirait de dépression.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est une réalisatrice qui a des thèmes, qui aime aborder des thèmes plutôt tourné vers la condition féminine, on va le dire comme ça, sans parler de féminisme proprement dit. Donc c'est un cinéma engagé de ce point de vue, Paul Dima.
De ce point de vue-là, oui, avec une attention très, très proche de ces personnages féminins. Ce n'est pas un combat féministe, mais c'est une attention à ce que vivent les femmes et comment ça peut être traduit dans un récit film.
Le scénario est signé Blandine Lenoir, Camille Jourdi et Maud Abline. D'après la bande dessinée, Juliette, les fantômes reviennent au printemps de la même Camille Jourdi.
Oui, Camille Jourdi qui a déjà été adaptée au cinéma dans Rosalie Bloom. En fait, ce qui a séduit Blandine Lenoir sont les personnages que décrit Camille Jourdi dans son film. Cette famille avec chacun d'entre eux, cette façon de vivre et cette façon de s'exprimer particulière. Ces gens qui peuvent dire des choses profondes mais tout en gardant certains modes d'humour. On le sent bien dans le personnage du père qui aime bien utiliser l'humour. Quant à la mère, elle est exubérante et en tant qu'artiste, elle s'en va un petit peu dans tous les sens. Oui, le film décrit le fonctionnement d'une famille, les liens familiaux qui unissent Juliette à ses parents et à sa sœur, des parents qui sont séparés d'ailleurs. Et c'est ce qui est intéressant, c'est à la fois de décrire ce qui se passe chez Juliette, qui est Juliette, mais aussi quelles sont ses relations avec ses parents et quelles sont les relations de la famille entre elles.
Paul Dima.
Oui, relations un peu complexes aussi, mais qui portent justement l'intérêt sur cette famille qui peut paraître un peu foutraque, en fait, et en même temps très attentive. Les personnages, je veux dire, sont très attentifs les uns aux autres. Alors des fois, ça s'affronte, des fois, c'est complètement hors du commun. Et puis, en même temps, par exemple, le père qui est un petit peu lunaire, qui est un peu dépassé, mais qui en même temps est très, très attentif à tous les personnages de la famille, mais un peu décalé en même temps, et un peu perdu, présent, mais un peu perdu aussi.
Oui, et puis il n'a pas su trop quoi faire quand ils se sont séparés. Lui et sa femme, elle, Volage a eu beaucoup d'amis. Et elle a créé aussi, puisqu'elle peint, on voit ses œuvres d'ailleurs assez savoureuses, on n'en dira rien, il vaut mieux les découvrir au cinéma. Mais comme le disait justement Paul, ce sont les rapports qui tiennent entre tous les membres de cette famille, dont il ne faut pas oublier la grand-mère Simone qui a un rôle elle aussi important. Hein, ils sont tous importants, même si on ne les voit pas. tous de la même façon, oui, dans le film. Mais ce qui est à noter, c'est que dans l'écriture du scénario et des personnages, tous sont remarquablement écrits, même ceux qui ont eu une toute petite place dans le film. C'est ce qui caractérise d'ailleurs ce film.
Ça se passe en province.
Oui.
Où revient le personnage principal, Juliette. Donc, petite ville de l'Ain, elle est elle-même dessinatrice de BD. Oui. Hasard ou pas, oui. Certainement pas. Les personnages, vous pouvez peut-être maintenant nous dire qui les interprète. Important parce que les acteurs sont excellents.
Alors, le casting, elle l'a fait avec beaucoup de soin, Blandine Lenoir. Elle a choisi Isia Higelin, qu'on n'attendait pas là, puisque c'est plutôt une jeune femme très pétillante. On se souvient de ses prestations en scène, puisque c'est aussi une chanteuse.
Oui.
C'est d'abord une chanteuse. Mais elle est très bien, parfaite dans le rôle de cette jeune femme qui ne sait pas trop le problème qu'elle rencontre. Elle a une idée. Bon, elle est un peu dépressive, mais bon, elle a ses impatiences. La nuit, vous savez, ses jambes qui bougent.
On va en parler après de chacun des personnages.
Et il y a sa sœur aînée, Marie-Lou, incarnée par Sophie Guillemin. Parfaite, elle aussi, comme Jean-Pierre Daroussin, qui joue le rôle du papa. Léonard, c'est Noémie Lovski qui est la maman, oui. Nathalie, et puis après il y a d'autres personnages importants aussi, le mari de la sœur aînée, incarné par
Marie-Lou.
Éric Caravaca, un jeune homme que croise Juliette qui s'appelle Pollux, pas confondre avec le chien, c'est Salif Cissé, et puis Liliane Rovert, la grand-mère, magnifique. Simone, on se souvient de ses performances dans la série 10%. Nos auditeurs verront donc le visage de cette femme, Liliane Rovert, et puis il y a Thomas de Pourquerie, qui chaque fois qu'il apparaît a un déguisement assez savoureux et croquignolé.
Oui, parfois il n'a pas de déguisement du tout, d'ailleurs.
Oui,
c'est le plus simple appareil.
Oui, c'est vrai. Oui.
Parce que c'est l'amant de Marie-Lou.
Oui. C'est l'amant de Marie-Lou, voilà.
Il y a quelques scènes, on les voit consommer enfin, de façon suggérée, bien évidemment. Ouais. N'ayez pas peur. Alors, avant que chacun donne son avis vraiment sur le film, est-ce qu'il a aimé ou pas, je propose qu'on écoute sa bande-annonce qui me semble bien résumer à la fois l'esprit, le ton du film, ainsi que les caractères des personnages et les liens qu'il peut y avoir entre eux.
Salut, papa.
Oh, ma Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit?
Ouais.
T'as pas donné beaucoup de nouvelles, ces temps-ci.
En fait, j'ai fait... un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant.
C'est vrai que c'est pas facile, la vie.
Une artiste aussi, n'est-ce pas?
Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment.
Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel.
Pourquoi tu la détestes, Nato?
Elle en aime un autre.
Bonjour.
Monsieur, enchanté. Je savais pas qu'il fallait venir déguiser, on me dit rien, moi.
T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80.
À part l'année que j'ai passée avec toi, tu sais, j'ai pas tellement de bons souvenirs dans cette maison.
Quelle année avec moi?
T'as vraiment tout oublié. C'était quand ça?
Je vous ai traumatisé tant que ça?
C'est inévitable, tous les parents traumatisent leurs enfants.
Oui. Et c'est comme ça que naissent les grands artistes.
C'est qui est mort?
Personne.
Bon, tu as fait ta photo.
Il m'adore.
Faut que tu lui parles à ton père. Il va te dire pourquoi t'étais chez ta grand-mère.
Ça suffit, là. On ne dérange pas, non.
Stop. Le prochain qui glousse, je le vire.
C'est elle qui glousse, c'est elle qui vire.
Pardon, c'est lui qui glousse, c'est lui qui vire.
La bande-annonce de Juliette au printemps, le film de Blandine Lenoir que vous pouvez voir en ce moment à Toulouse au cinéma L'ABC. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé l'un et l'autre? Vous nous avez déjà donné quelques petites appréciations. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas ce film et pour quelle raison, Paul Dima?
Ah, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui prend son temps. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans la bande originale où on a l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a, oui, dans la bande-annonce,
il faut que ce soit percutant,
un dynamisme, tout ça. Pendant tout un moment, on se dit, il y a des choses qui vont pas très bien dans cette famille.
On n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Oui, c'est ça. On se demande pourquoi. Alors, la jeune qui revient, la jeune femme qui revient dans son cocon familial, elle est en dépression. Enfin, elle est en légère dépression.
Elle dit qu'elle a fait une dépression, mais que ça va mieux.
Donc ça va mieux.
Mais on voit bien que ça va...
Ça pourrait encore aller mieux,
voilà,
que mieux.
Aller mieux, voilà. Ça ne veut pas dire aller bien.
Oui. Elle vient là pour peut-être se poser, se reposer. Et puis elle retombe dans un contexte familial dans lequel elle est quand même un petit peu pas très à l'aise, quoi. On sent que les relations sont pas toutes simples. On lui fait aussi des reproches. Elle est la seule célibataire du groupe. Et puis elle se dit, bah, ça va pas très bien. Et on lui répond, oh ben dis donc, mais toi, t'as pas de plaindre, hein. T'as un boulot, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant à t'occuper, t'as pas. Elle dit, oui, moi j'ai pas, voilà.
Oui, alors, qui lui dit ça? C'est sa grande sœur.
C'est sa grande
sœur. Qui elle est mariée et a des enfants.
Qui a des enfants.
Et un amant.
Et elle a bien de la peine à gérer tout ça en même temps. Voilà. Elle est mariée aussi et son mari est présent. Donc il y a le mari, l'amant, les enfants et le reste de la famille. Une grand-mère qui est là, présente à certains moments, mais souvent absente parce qu'elle est un peu ailleurs.
Elle est en maison de retraite.
Dans sa tête aussi.
Elle est en maison de retraite. Elle est déjà un petit peu partie d'une certaine manière.
Mais
elle vit beaucoup dans ses souvenirs, mais aussi dans le présent quand même.
Et avec des souvenirs précis qu'elle va délivrer à un moment, on ne va pas dire, et qui vont jouer un rôle important dans l'avancée du scénario.
Et dans l'évolution de
des personnages.
Et de l'état de Juliette. Qui va comprendre aussi pourquoi, peut-être, n'est-elle pas bien. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le film, c'est la façon, le parti pris de Blandine Lenoir de jouer entre humour et émotion pour faire avancer cette histoire, le cheminement de Juliette et qu'on comprenne les tensions familiales.
C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre un peu à la place de Juliette, au sens où on se dit, mais bon, cette fille, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous, on ne comprend pas pourquoi, mais elle ne comprend pas pourquoi non plus. Donc, on est complètement dans sa tête de ce point de vue.
Oui.
Et on sent que, bon, s'il y a ce film, c'est que quelque chose va nous être révélé. Alors, moi, je trouve qu'on met un peu de temps à y arriver. Bon, après, c'est personnel. Moi, j'ai besoin que ça agisse un peu quand même à l'écran. Mais on sent que quelque chose va nous être révélé, mais on n'a aucune espèce d'idée de ce que ça peut être. Oui. Il y a un secret de famille, mais lequel?
Et c'est ce que je trouve intéressant. Parce que dans les familles, il faut souvent attendre très, très, très longtemps avant qu'on ose dire.
Et souvent, il faut qu'il y en ait un ou une,
oui,
qui ouvre la porte à un moment donné.
Voilà.
Pour que,
ou par inadvertance, ou par dire, bon, ça suffit comme ça, et toc, je te dis. Là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un qui dit, ben, pourquoi j'étais chez la grand-mère? Et sa sœur lui répond, ben...
Tu te rappelles pas?
Il dit, mais me rappeler de quoi?
Bon, et on ne dira, on ne dira rien sur ce dont elle doit se souvenir. Oui. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, effectivement, le film bascule et on comprend. On comprend mieux pourquoi elle a été seule un moment avec sa grand-mère, pourquoi son père a été seul aussi un moment, pourquoi sa mère n'était plus là, et pourquoi la grande sœur est investie du poids de cette charge mentale. Parce que finalement, comme vous le disiez justement, Eric, elle s'occupe de tout le monde, de toute la famille. Hein, du père, de la mère, de la sienne et de la grand-mère. Parce que, en fait, Pollux, ce fameux Pollux, c'est son coloc. C'est le coloc de la grand-mère, puisqu'il est partagé la maison. Elle vivait au rez-de-chaussée, lui vivait à l'étage. Et comme elle est partie placée dans un établissement, un EHPAD, un établissement pour personnes âgées, eh bien la famille a décidé de vendre la maison.
Oui, parce que l'EHPAD, ça coûte cher.
Eh bien oui, il faut le payer.
Voilà, donc il faut le payer.
Ah, donc c'est Liliane Rovert qui joue la grand-mère. Liliane Rovert qui a 91 ans qui, ma foi, tient très 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 bien son rôle.
Oui, très bien. Oui.
On parle des personnages féminins. Il y a trois générations de femmes, donc la grand-mère, la mère de Juliette et Marie-Lou, et Marie-Lou et Juliette elle-même. C'est vraiment les personnages forts de ce film. Les hommes sont tous plus ou moins insipides tout de même, même s'ils ont évidemment leur rôle à tenir dans cette histoire familiale.
Je ne pense pas qu'ils soient insipides, c'est un peu sévère. Oui. Ils sont...
Le mari est assez transparent.
Il n'est pas transparent, il est surtout maladroit. Il fait partie de cette catégorie d'hommes qui ont été élevés de façon à, on leur disait, t'as pas à exprimer un sentiment, t'as rien à dire, t'as rien à faire, c'est la femme qui doit s'occuper de tout. Elle n'avait pas le choix.
Donc elle prend la place.
Elle l'occupe bien, la place de Marie-Lou.
Ça lui correspond bien, je pense.
Et donc c'est cette raison qui amène à penser à ce que vous pensez du personnage du père en particulier. Léonard, mais à un moment, on se rend compte que ce père, il a été militant. Il a été militant, puisqu'au moment du déménagement de la grand-mère, il tombe sur quelques vinyles et il se met à écouter ce fameux morceau, Le Pieux, qu'il chante à tue-tête et en dansant. Oui. Et d'ailleurs, Juliette en est le témoin, mais elle n'ose même pas, elle ne va pas le déranger, elle le laisse faire. Donc oui, il y a le poids, ce poids sociétal dont il aurait pu se libérer, certes, mais qui a pesé sur ses épaules et qui l'ont amené à être comme ça. En particulier, la raison pour laquelle il n'a pas été avec sa fille, c'est parce qu'on a pensé qu'il n'était pas capable de s'occuper d'elle.
Oui, tout à fait. Son espace d'engagement était, d'après la séquence qu'évoquait Louis-Marie, était en dehors de la maison. Mais parce que sa femme occupait le terrain aussi, enfin, voilà. Et donc, lui, son lieu d'engagement, et on voit comment il revit sa chanson de combat, alors qu'il est un petit peu limité dans ses gestes. Et à un moment, quand sa fille lui demande de danser parce qu'elle veut le dessiner, il est particulièrement...
Empoté.
Gauche.
Oui.
Mais en même temps, il veut faire plaisir. Et donc, il répond à la demande de sa fille... qui fait des dessins, voilà, et elle veut avoir son père en différentes positions. Et elle lui demande, par exemple, de mettre les bras comme ça devant. Non, pas comme ça, comme si tu tenais tes enfants. Voilà.
Bon, on ne peut pas en dire plus,
parce qu'on
ouvrirait la... Oui. On révélerait un petit peu le fond de l'affaire. Mais ces personnages masculins, tout de même, pourquoi je disais ça, vous parliez de cinéma féministe, pour Blandine Lenoir.
Oui.
Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un cinéma féministe contre les hommes.
Non, pas du tout.
Les personnages forts, tous les personnages féminins sont très forts dans ce film. Les personnages masculins sont quand même un peu plus, comment dirais-je, en arrière-fond. Ils ne sont pas tout à fait sur le devant de la scène. Et puis on sent qu'ils ont du mal, comme vous le disiez, à s'exprimer, mais aussi à prendre leur place au milieu de tout ça. Mais ce n'est pas un cinéma militant contre les hommes. C'est un féminisme, je dirais, discret, et je vais oser le mot, intelligent.
Oui, attentif aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes. Et il n'y a pas de thèse derrière, ou de démonstration, ni de combat à mener. C'est comment les femmes arrivent à gérer des choses un peu complexes.
Oui, ce n'est pas du tout un film, je cherchais le mot, contre le patriarcat, par exemple, puisque on ne peut pas dire que les hommes dans ce film aient vraiment l'air de patriarches qui régentent tout autour d'eux, qui font peur à tout le monde. Les personnages les plus durs, c'est plutôt les personnages féminins. Hein.
Oui, certes, et même Marie-Lou. Peut-être celle qui est...
Oui, la sœur. Ben,
celle qui a la charge mentale, on en parlait, la plus importante.
Mais elle est plutôt dure, je trouve, pour se protéger et se défendre.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas de la mère.
Oui, mais elle veut que tout soit parfait. Preuve en est, la réunion de famille, ou même à propos de la béchamel, tout doit être parfait. Et quand c'est elle qui veut prendre la photo, dont on entend
le moment de pause... Elle replace les gens.
Elle fait attention à sa façon d'être habillée, à ce qu'elle va servir. Effectivement, elle a le poids de tout ça sur les épaules et elle a du mal à vivre avec ça. Néanmoins, elle l'occupe,
elle
cet
fait
espace.
Front. Elle fait front.
Elle ne peut pas se passer non plus. Tu parlais de son désir de perfection, mais il y a qu'elle qui peut faire des choses parfaites.
Exactement.
Donc, puisqu'il faut que ça soit parfait, eh ben je le fais.
Mais il y a le moment où... Un moment qui est touchant, elle est coiffeuse à domicile.
Oui.
Elle est coiffeuse à domicile et une ou deux fois, on la voit en train d'œuvrer auprès de clientes. Et en particulier, plus que les coiffer, elle leur masse la tête. Et le bien-être éprouvé par les femmes qu'elle masse...
Elle le ressent aussi.
Mais elle aimerait bien qu'on le fasse.
Elle le ressent, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, elle est contente de faire du bien aux autres.
Oui, mais elle aimerait bien qu'on le lui en fasse de la même façon.
Oui, c'est d'ailleurs ça.
Oui, parce qu'elle est un peu prisonnière de son propre rôle. Comme c'est elle qui régente et qui fait, vas-y.
D'ailleurs, même avec son amant, remarque, parce que lui, il voudrait plus, lui.
Oui.
Il veut pas... excusez-moi du terme, seulement que du sexe, il voudrait plus. Et là, c'est la femme qui dit, oui, mais moi, non.
Ça ne peut pas
aller plus loin, quoi.
Oui.
Ce sont les hommes qui sont plutôt un peu pris dans les sentiments.
Parce que finalement, son mari, il est sympa aussi. Hein.
Oui. il ne demande pas mieux que de l'aider, mais il se fait renvoyer, quoi.
Il fait toujours du flan au chocolat.
Oui.
Un autre aspect, sans en dire plus, qui me semble important dans ce film, c'est le rôle des animaux.
Oui.
Beaucoup d'animaux dans ce film,
oui.
Réels ou, comment dirais-je, déguisé.
Oui.
Je ne vais pas en dire plus.
Ou qui servent de déguisement.
On peut le dire. L'amant vient retrouver la sœur de Juliette, Marie-Lou. Il se déguise en animal. Mais ça fait partie de son métier, d'ailleurs.
Oui, oui, il est tout le temps déguisé, d'ailleurs.
Il est tout le temps déguisé. Et ce rôle des animaux, alors, donc c'est issu d'une bande dessinée. Il y a un côté, quand même, comme dans les contes.
Oui.
Oui.
Tout à fait. Et c'est à chaque fois un personnage, enfin, un animal différent, un gros nounours, un perroquet, un fantôme.
Après, il y a des animaux réels, hein, je l'ai dit. Il y a notamment un caneton et un chat.
Un caneton qui s'appelle Norbert.
Oui, Norbert.
Qui est pris en charge par Pollux. Hein, je le disais, c'est ça qui est aussi, elle joue sur les deux tableaux.
Il y a le côté de l'enfance aussi.
Bien sûr.
D'ailleurs, les deux enfants de Marie-Lou ont aussi un rôle très important dans le film.
Et un chat maladroit aussi.
Et un chat qui tombe tout le temps du toit, mais sur ses pattes.
Sur ses pattes et toujours sur la même table, ce qui fait un bruit terrible.
Ça fait sursauter tout le monde, mais ils sont habitués en même temps, en disant « bon, c'est le chat voilà. ».
Et puis il y a ce caneton qui est recueilli par Pollux.
Oui, par Pollux.
Un peu à la demande de Juliette, qui a pitié de lui, mais il n'y a que lui qui peut le récupérer.
Qui fait un lien entre eux aussi, enfin qui est...
Ouais, mais qui est très symbolique aussi.
Il ne fait pas le lien, il est l'objet de leur attention commune, et il transpose sur le petit caneton qui est tout frêle, tout... Voilà. Quelque chose qui les rapproche aussi.
Bon, on va peut-être pas en dire plus, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose.
Non, après, il faut aller le voir.
Après, il faut aller le voir. J'espère qu'on aura donné envie aux gens d'aller le voir. Alors, voilà ce qu'on pouvait vous dire de Juliette au printemps dans le temps qui nous est imparti. Rendez-vous pour ceux qui ont envie d'en parler de vive voix avec Paul et Louis-Marie le mardi 18 juin à 14h30 pour le Ciné-Parole à l'ABC. Nous allons faire l'habituelle pause musicale dans cette émission avant de reprendre nos échanges autour de La Vraie Famille, réalisée par Fabien Gorgeard. On entend dans ce film la chanson Daydream du groupe Wallace Connection. Je vous propose de l'écouter maintenant, ça va rappeler des souvenirs à certains de nos auditeurs. On se retrouve ensuite.
The flowers, floral couple of hours.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour pour la seconde partie de Vivante Église. Je suis toujours avec Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Après Juliette au printemps, vous avez donc souhaité parler de La vraie famille, écrit et réalisé par Fabien Gorgeard, un film sorti en 2021. Pourquoi est-ce que vous teniez à revenir dessus, Louis-Marie ? Parce que c'est votre idée, c'est votre souhait.
Parce que le film parle encore de famille, hein, on n'en sort pas. Mais cette fois-ci, c'est un autre point de vue. C'est le point de vue d'une famille, mais d'une famille qui accueille en son sein un enfant qui justement n'en a pas. Ou qui est en panne de famille. Dire qu'il n'en a pas, ça serait un peu réducteur, mais vous savez, ces enfants...
Bah, c'est les enfants placés en famille d'accueil par les assistantes sociales.
Par l'ASE.
Par son appel avant la DAS, enfin bon, voilà.
L'aide sociale à l'enfance. Et ici, on va faire la connaissance donc, d'une famille qui a en charge un enfant, mais depuis longtemps, hein, un enfant qui a 6 ans, mais qu'ils ont eu, il était encore bébé, il avait même pas 18 mois.
Donc pour lui, ce sont vraiment ses parents.
Ses parents, d'ailleurs, il appelle la dame, cette dame de la famille, maman. Et d'ailleurs, quand on fait leur connaissance au début du film, on a l'impression qu'il est le plus jeune fils de la famille, puisqu'ils ont deux garçons, en dehors de ça, qui sont plus âgés que cet enfant, et il est bel et bien un des membres à part entière de cette famille. Et comme il est le plus petit, bah, c'est celui sur lequel toute l'attention se porte le plus souvent.
Le petit dernier.
Aussi bien de ses frères que des deux parents d'accueil, de ses frères d'accueil aussi, c'est-à-dire que c'est une vraie famille qui est en vacances, qui est dans un camping, qui joue. Et alors, on voit la qualité de cette vie familiale. Et puis, on va découvrir par la suite que, voilà, c'est pas sa vraie famille.
Et non, c'est pas sa vraie famille, et on va le découvrir parce que, justement, il va devoir la quitter, cette famille. Il va devoir la quitter parce que on comprendra les raisons, d'ailleurs qu'on peut dévoiler.
Oui, tout à fait. Oui.
Pour quelles raisons il a été placé ? C'est parce que il a été placé petit parce que sa mère est décédée accidentellement.
Oui.
Et son père était dans l'incapacité de s'occuper de lui. Il le reconnaissait lui-même et c'est pour ça que l'enfant a été placé. Mais maintenant qu'il a retrouvé de la stabilité, qu'il a retrouvé un emploi, qu'il a de quoi accueillir son fils, eh bien il veut récupérer son fils. À juste titre, d'ailleurs. Et c'est là où les problèmes commencent.
Oui, alors les personnages principaux, la mère et le père qui accueille l'enfant, sont interprétés par Mélanie Thierry. Donc pour
la mère, c'est le personnage central. Oui. Et Lies Salem qui interprète
Driss, le mari.
Le père adoptif et le mari de Mélanie Thierry, qui est parfait. Lui, qui a bien en tête son rôle, il n'est pas père de substitution. Lui, il est le père d'accueil, mais chaleureux avec cet enfant, comme il l'est avec ses fils, mais il n'a pas perdu de vue qu'un jour ou l'autre, eh bien, cet enfant risque de partir.
Et là, il se situe de façon un peu différente de la façon dont le gère la mère d'accueil, enfin la mère, la femme qui accueille, qui, elle, colle complètement à son rôle de mère.
Bah, elle s'attache vraiment à l'enfant comme si c'était le sien, et il n'est pas question pour elle qu'un jour ce ne soit plus le cas.
Ben oui.
Le père, lui, a intégré, en tout cas c'est ce que vous avez compris de la façon dont c'est présenté, il a intégré le fait qu'un jour, nous ne sommes qu'une famille d'accueil en quelque sorte, et sa vraie famille, c'est pour ça le titre, la vraie famille, sauf qu'on pourrait mettre un point d'interrogation, et ça on va en parler bien sûr, un jour le père pourrait revenir, et donc il faudrait se séparer de cet enfant qu'ils ont élevé pendant des années, puisqu'ils l'ont eu, il avait 18 mois.
Et il joue un rôle important vis-à-vis de sa femme, ce père d'adoption, parce qu'en même temps qu'il l'accompagne, enfin qu'il gère avec elle cette famille recomposée, avec cet enfant qui arrive, en même temps... c'est-à-dire que il joue le rôle d'un vrai père entre guillemets en disant attention, c'est pas ton enfant, c'est pas
Il est plus le rôle d'un tuteur, pourrait-on dire, peut-être que d'un père biologique puisqu'on place le terme. Lui, il arrive à garder cette distance.
Et tout en étant très proche et très affectueux et très
paternel,
très impliqué paternel, aussi, voilà. Mais à une place plus juste. Et là, c'est une des choses qui peut être interrogée dans ce film, c'est que on voit des dysfonctionnements institutionnels aussi.
Alors, effectivement. Juste une chose, le père qui revient, le vrai père biologique, comment se comporte-t-il, lui ?
Ben, c'est-à-dire qu'il a quand même mis 5 ans à arriver à accepter la disparition de sa femme et qui a entraîné le fait qu'il n'a pas pu s'occuper de son fils.
Et à se reconstruire.
De façon assez adroite, maligne, Fabien Gorgeard, le réalisateur, en le montrant comme ça, on ne fait pas un personnage foncièrement sympathique, ni antipathique d'ailleurs, non. On n'a pas de l'antipathie pour lui, mais on comprend bien quand même, le spectateur se met à la place de cette mère qui ne l'est pas vraiment. Et on comprend combien elle peut être déchirée par le fait de devoir être séparée de cet enfant. On se dit, mais pourquoi il vient le prendre maintenant ? Mais il a toutes les raisons de le faire. C'est lui son père, et pourquoi ne pourrait-il pas s'en occuper maintenant ? Il ne prend pas parti non plus, Fabien Gorgeard. Il montre les choses, et cet homme est dans son droit.
Non, parce que la difficulté, c'est ça. Et vous avez employé le bon terme, il est dans son droit. C'est-à-dire que les deux familles, entre guillemets, sont légitimes.
Oui.
Alors, quelle que peut faire l'institution enfin,
quelle est la vraie famille
que, il y a le rôle de la juge aussi, qui est joué par l'excellente Dominique Blanc. Quand vous vous retrouvez devant une situation comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a une bonne solution, d'ailleurs ?
Alors, il peut y avoir une bonne solution, mais c'est jamais simple. Parce que là, quand même, il a manqué un moment de clarté. C'est-à-dire que la mère d'adoption s'est laissée appeler « maman » par l'enfant. Et il y a une complicité qui s'établit entre tous les deux, qui les enferme et qui fait que le retour à la demande du père réel va se transformer en une forme d'affrontement. Parce que les choses n'ont pas été bien situées au départ. Et là, le juge impose de dire « il ne faut pas qu'il vous appelle maman ». Et l'enfant ne comprend pas. Pourquoi tout d'un coup, 5 ans après, faut plus dire maman ? Et alors, la mère qui est déchirée aussi, la mère d'adoption, convient qu'en secret, il pourra le penser, ils pourront se le dire entre eux, mais que quand ils sont que tous les deux. Donc il y a une espèce de fiction qui s'installe. La loi te demande de ne pas le dire, mais qu'on n'est que tous les deux, hein, on peut. Et ça, c'est très déstabilisant pour un enfant.
Bien sûr, et justement pour arriver à l'extraire, on va essayer de passer par un sas, le mettre avec un groupe d'enfants. Alors là, c'est plus...
Un centre d'accueil.
C'est plus une famille d'accueil, non. C'est un centre d'accueil où il est avec d'autres enfants.
Et des animaux. Enfants,
et des animaux. Il est plutôt sympa, ce centre d'accueil.
Oui,
mais
il passe d'une famille à un groupe, à une communauté, pourrait-on dire.
Voilà,
mais ce n'est pas sa famille.
Ouais.
Et pour l'aider à se détacher de cette famille. Mais là aussi, l'institution rate son coup. Bon, la maman d'adoption ne fait pas grand-chose pour que ça marche non plus.
Oui, on peut se mettre à sa place et la comprendre. Alors, parce que la question, évidemment, que pose le film, c'est quelle est la vraie famille ? Est-ce que c'est celle qui a élevé l'enfant depuis tout petit, qui n'est pas celle du sang ? Ou est-ce que c'est celle du sang qui revient, même si pendant longtemps elle a été absente ? Quelle réponse vous donneriez-vous ?
Alors, la vraie famille, c'est celle qui pose des règles claires. Une famille sans règles, c'est destructeur pour tout le monde, pour ceux qui imposent ce fonctionnement et pour ceux qui le subissent. Et ici, au lieu que la passation, le retour vers le père qui maintenant est en mesure d'assurer son rôle de père...
Et qui a le droit pour lui. Mais la justice ne fait que dire le droit, attention.
Oui. Et le droit ne dit pas forcément la compétence de l'homme à reprendre son fils.
Bien sûr. Hein.
Bon, après, ça peut être jugé, et puis il y a des entretiens psy, mais voilà. Là, on sent que le père réel est en capacité de pouvoir reconstruire une relation qui a été interrompue par le deuil qu'il avait à faire de sa femme. Mais de l'autre côté, cette femme n'a pas été préparée du tout à ce retour, et elle est déchirée. Et en même temps, elle fait des efforts, elle dit « s'il faut que tu partes en vacances à Noël avec ton papa ». Et puis en fait, l'enfant il dit « maintenant je vais aller avec vous ». Et puis le père avait préparé un cadeau et lui fait le cadeau. Et puis il dit « mais non, moi je veux pas, je veux aller faire du ski et tout, et je veux pas être avec toi ». Très dur pour le père, qui fait la démarche de réadopter son propre fils. Et l'enfant dit, ma vraie famille, c'est pas toi. Hein.
Oui, parce que la mère d'adoption est doublement déchirée. Elle l'est parce qu'on lui enlève celui qu'elle considère maintenant comme son enfant. Et comment ça ne pourrait pas être le cas ? Mais elle est aussi déchirée parce qu'elle sait que l'enfant va être malheureux si on le retire de la famille qu'il considère maintenant comme la sienne.
Oui, mais elle a des responsabilités parce que...
Et oui, elle s'est trop impliquée.
Elle s'est trop impliquée.
Elle s'est attachée alors qu'on lui avait sans doute dit dès le départ, attention.
Et si ça se passe mal entre le père et la famille, c'est à cause de son comportement, ça c'est certain. Et à ce titre, encore une fois, je dis, Fabien Gorgeard ne prend pas parti.
Non,
il ne juge pas.
Il y a une scène remarquable, celle de la fin du film, où la famille est au cinéma. Et dans les escaliers du cinéma, une grande baie vitrée qui donne sur une place où se trouve le cinéma. Et il voit l'enfant avec son papa qui, eux aussi, étaient au cinéma, mais eux sont sortis. Et ils ont l'air bien ensemble. Oui. Et ils parlent, ils se tiennent la main. Le père est arrivé à renouer, à refaire du lien avec son fils.
Et les enfants disent « Oh, il est là, mais on va aller le voir ». Et là, les parents adoptants disent non, il est avec son père, on le laisse. Et donc,
c'est surtout le papa. Qui dit non. Et puis de toute façon, il ne nous a pas entendus.
C'est souvent le rôle du père dans la famille, justement, d'être capable de dire non et de couper parfois certains liens.
Oui.
Ce thème des enfants placés en famille d'accueil et les problèmes que ça peut poser est, il me semble en tout cas, très peu traité au cinéma, alors que c'est un vrai sujet de société dont d'ailleurs on parle peu. On parle très peu, c'est pas quelque chose qui est abordé. Est-ce que c'est pas justement un des grands mérites de ce film de le mettre en lumière ?
Oui.
Alors pour des raisons personnelles concernant Fabien Gorgeard.
Et de montrer les écueils dans lesquels ne pas tomber et de dire, de faire le rappel, non pas de la loi comme ça extérieure, mais d'une parole juste et d'une position juste qui n'empêche pas d'être proche, d'être aimant, mais... Une maman, c'est une maman, et quand on est famille d'accueil, on n'est pas la maman ou le papa de l'enfant, on est famille d'accueil.
Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit famille d'accueil, je n'ai pas parlé de l'adoption, ça a été traité au cinéma, mais les familles d'accueil, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Marie Solaire, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on parle beaucoup d'abord, de manière générale, dans notre société, mais au cinéma en particulier.
Oui, c'est vrai, mais il est arrivé quand même que quelques films passent. Jeanne Herry avait traité aussi, alors là, c'était avec un enfant encore plus jeune, un nouveau-né, mais qui était assez remarquable. Et c'est vrai qu'on parle peu, c'est un sujet délicat. Alors évidemment, vous l'avez souligné, Eric, il se trouve que c'est quelque chose qu'a vécu le réalisateur, et en fait surtout ce qu'a ressenti la mère du réalisateur, qui a vécu un peu ce que décrit le film. Et donc, c'est quelque chose qu'il a touché du doigt, qu'il a vécu. Donc on comprend pourquoi. C'était peut-être une façon à lui aussi d'arriver à passer ce cap aussi et à le raconter.
Oui. C'est pas un biopic, mais sûrement que son propre vécu de frère d'un enfant adopté, enfin frère, enfant dans une famille adoptante, pas adoptante de placement, qui n'est pas du tout adoptante, hein, ce qui est là pour
non,
un
c'est
moment.
Pas la même chose, c'est pas la même
voilà.
Chose,
oui. Eh bien, les enfants ne sont pas indemnes non plus. Hein. Il n'y a pas que les parents d'accueil qui sont touchés, mais les enfants entre eux ont une telle complicité. Bon, ils se bagarrent, enfin comme tous les enfants, ils partagent plein de bons moments.
Même hein. ça crée des liens.
Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Je parlais du film de Jeanne Herry, c'est Pupille, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est un bébé qui est mis à l'adoption.
Oui.
Néanmoins, il faut quand même une famille qui prenne en charge le bébé en attendant qu'il soit adopté. Là aussi, ça risque d'être un peu délicat.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que vous animez ensemble la séance du Ciné-Parole consacrée à Juliette au printemps, mardi 18 juin, mardi prochain, à 14h30 à l'ABC, où le film est actuellement à l'affiche. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils ont rendez-vous chaque mercredi à 19h sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.